Bienvenue dans la Terre à boire. Nous sommes dans un lieu absolument unique, exceptionnel, on pourrait dire, dans la cave, mais une vraie cave, hein, une cave voûtée, cette petite odeur voilà, de cave, hein, on peut dire, de renfermée, mais c'est très agréable, il y fait frais. Cette cave, c'est celle du bistrot du sommelier de Philippe Forbrack, meilleur sommelier du monde. Hein, c'est pas lui notre invité tout de suite, mais il le sera dans un prochain épisode. Teasing, et on le remercie déjà de nous accueillir ici. Donc on est cerné de bouteilles, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. On tourne la tête, on voit la tâche, on voit grands écheseaux, on voit des tonnes de bon, y a beaucoup d'étiquettes qui ne me parlent pas, mais ça a l'air d'être de très beaux vins, des centaines d'autres et même probablement des milliers d'autres, en sous-sol donc dans ce restaurant, le bistrot du sommelier de Philippe Forbrack. On n'est donc pas au studio module, mais heureusement, c'est Morgane qui s'occupe du son, donc vous devriez nous entendre correctement. Et à mon côté, la fine équipe, Patrice Defay est là, notre passionné passionnant. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Voilà, intimidé par les bouteilles.
Non, je me sens dans mon élément.
Ça ressemble un peu à ta cave.
C'est non,
ça
que pas du tout, dire. Mais c'est une certaine image de ce dont je rêve. Voilà.
Ah, c'est ça, une certaine idée du paradis. Laurent Delceau est là aussi, le patron du Wine Therapy, rue de Montholon à Paris. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Toi, tu connais ces lieux. T'étais déjà venu.
Déjà venu cet été en repérage. Ouais. J'avais déjà eu le plaisir de visiter ce lieu. Ouais.
Je ne sais pas combien de mètres exactement on est sous terre. J'ai vu qu'il y avait encore des escaliers qui descendaient encore plus bas.
Ah oui, il y a un vrai labyrinthe. Ouais.
Incroyable.
Labyrinthe de cave. Ouais,
il va falloir qu'on revienne nous chercher pour nous faire sortir. Valérie Ouvertus est là aussi.
Bonsoir.
Bonsoir Valérie. Caviste et dégustatrice, organisatrice de dégustation via ta société Eunotesting.
Tout à fait.
Voilà, bienvenue Valérie. Tu commences à être une habituée de la Terre à boire. On est ravis de t'avoir. Et en face de moi, notre invité du jour. Bonjour, Gilles Durand-Daguin.
Bonjour, je suis Gilles Durand-Daguin.
Comment ça va?
Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Et voilà, ça te fait une bonne compagnie dans ce lieu un peu étrange, un peu décalé. Mais on est bien, on est entre nous.
On a parcouru des kilomètres, non, pas des kilomètres, mais quand même, pas mal de couloirs. Et puis jusqu'à arriver dans ce petit endroit, on a juste la place d'une table ronde avec ses 5 micros. Gilles Durand-Daguin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de La Terre à boire.
Pour merci tout dire, de m'avoir invité.
On est ravis de te recevoir. Pour tout dire, c'est une émission, comme souvent, à laquelle on pense depuis un certain temps déjà. Je me tourne vers toi, Laurent, parce que c'est toi qui nous en a parlé le premier de ce livre. On te reçoit pour parler de toi, Gilles. Toute amitié, découvrir ton parcours, et aussi
de cet objet extraordinaire, un beau livre.
La genèse de tout ça, effectivement, c'est que depuis un moment, on réfléchissait à cette question du grand vin. Qu'est-ce qu'un grand vin? Je pense que c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Qu'est-ce qui détermine le prix d'un vin? Qu'est-ce qui fait que ça soit six côtés? La spéculation qui est autour des vins. Et effectivement, l'an dernier, j'ai croisé Gilles qui était sur ce projet au mois de juillet. Oui, c'était ça, au mois de juillet l'année dernière. On était en Savoie. Et dans la foulée, le livre est sorti. C'était au moment des fêtes de fin d'année 2021. Je me suis dit, on veut parler de grand vin. Il y a ce livre qui est magnifique qui sort. On va trouver un moment pour en parler.
Le livre, il s'appelle Vin d'exception, de toujours, d'aujourd'hui et de demain.
Je le montre là, hein. Voilà. Là pour que les auditeurs le voient bien.
Il est paru aux éditions Grunt, qui est une grande maison d'édition, on peut le dire, spécialisée dans les beaux livres, les livres d'art notamment. Voilà, pas forcément le vin, je crois que c'est ce que tu nous disais.
Non, ils font plutôt des livres sur l'art, et puis ils ont un département jeunesse aussi. Et oui, c'est une belle maison d'édition qui appartient au groupe Editis.
Comme beaucoup de maisons d'édition.
Comme beaucoup de maisons d'édition.
En tout cas, c'est un livre assez exceptionnel dans ses dimensions, dans son poids, dans l'ampleur, l'ambition même de l'ouvrage.
Je crois qu'on peut dire, sans galvauder cette expression, que c'est un beau bébé, hein, puisqu'il fait 3,2 kg. Donc pour un livre, c'est quand même assez raisonnable. Et il fait 28 cm, 37 cm de haut, en coffret, 240 pages. Donc je ne sais pas si vous visualisez, c'est très important la visualisation dans les podcasts, mais c'est un gros objet. Voilà.
Ouais. Sinon, il y a des moteurs de recherche pour aller voir à quoi ça ressemble. Ou également des.
Quand vous le ramènerez de la librairie, vous allez comprendre de quoi
oui,
je parle.
Alors là, tu es en train de te couper une part non négligeable de la clientèle parisienne qui ne va pas pouvoir le faire rentrer dans son appartement. Il ne faut pas dire ça.
En fait, pour en avoir entendu parler, tu disais qu'il fallait une grande table de nuit. En fait, c'est une table de nuit. C'est-à-dire que si tu as 4 pieds et tu le mets dessous, tu as ta table de nuit.
C'est ça.
Exactement.
Non, très, très joli objet. Hein.
Donc le thème du jour, ce sont ces vins d'exception. Alors, il y a plein de choses à dire quand on y pense autour de cette notion, cette idée des vins d'exception. On va y venir, on va parcourir un peu les vins, les domaines que tu as retenus. Il y en a combien ?
100.
Il y en a 100, exactement. Ouais. 100 vins d'exception. Si vous les avez tous bu dans votre vie,
je veux vous rencontrer.
Vous êtes assez riche.
Je veux vous avoir pour ami.
Vous êtes bien introduit, je sais pas, dans certains milieux. Mais on va parler de tout ça. Peut-être que, pour commencer, on va quand même parler un peu de toi, de ton parcours. Qui es-tu, Gilles Durand-Daguin ?
À qui je suis ? Ça y est, vous allez me plonger d'entrée de jeu dans des abîmes, de perplexité. J'ai eu une autre carrière avant, si tant est que j'ai des carrières, mais j'ai travaillé dans l'audiovisuel et le cinéma. Donc j'étais scénariste et je m'occupais plus particulièrement de lecture de scénarios. Donc la lecture de scénarios, on ne lit pas à haute voix des scénarios, on les analyse en fait. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ces industries, les projets, les fictions, les films de cinéma, avant d'exister, ils sont des scénarios. Et donc il y a toutes sortes d'étapes avant qu'ils aboutissent à leur format filmique, et notamment pour le financement. Donc voilà. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, que peut-être l'écriture scénaristique n'était pas l'écriture que je préférais. C'est une écriture très technique, que je compare à de l'architecture en fait. On n'est pas dans le plaisir du mot ou de la langue, on est vraiment dans de la construction d'intrigues. Et donc j'avais envie de faire autre chose. Et comme j'aimais beaucoup le vin, j'avais développé un peu sur le tard, un peu par atavisme familial, une passion pour le vin. Et donc c'est un ami, citons-le, qui s'appelle Bruno Comernia, qui m'a dit « Mais tu aimes écrire, tu aimes le vin, écris sur le vin ». Il m'a poussé à faire un blog. Et puis voilà, un blog qui était un peu un anti-blog d'ailleurs. Parce qu'en fait, les blogs, c'est souvent des billets d'humeur. On poste, j'ai goûté ça, j'ai bu ça. Et moi, je me suis dit, maintenant, je vais faire que des articles très longs, peu et patrimoniaux, dans le sens qu'on pourra relire 2, 3, 4, 5 ans après et qui auront toujours de l'intérêt. Et c'est comme ça que Bétanet de Sauve m'a repéré et que j'ai commencé à travailler pour Michel Bétanet et Thierry de Sauve grâce à Nicolas de Rouen, qui est le rédacteur en chef de leur magazine qui s'appelle En Magnum. Je crois que j'ai tout dit en 3 minutes.
Merveilleux. Donc tu écris aujourd'hui dans En Magnum. Et cette idée des vins d'exception, c'est quelque chose que tu as en tête depuis longtemps. Quand tu parles de ces articles de blog, est-ce que certains portaient déjà sur ce côté perle rare de... Parce qu'il y a mille façons de parler du vin. Mmh. Et on peut parler de tous les vins. Il y a les vins, nous on parle souvent des vins de copains, des vins faciles d'accès. Les vins d'exception, c'est un segment particulier de
cet homme ne pose que d'excellentes questions. Est-ce que vous avez vu la qualité des questions? C'est le très haut niveau du podcast. Merci d'être là avec nous.
La gornerie ne te mènera nulle part.
Non. Alors, on peut faire du marketing pour répondre à cette question. On peut être aussi très...
J'ai employé le terme de segment.
Très prosaïque. Mais il y a deux réponses à cette question. La première réponse, c'est que, en fait, on m'a proposé de faire ce livre. Voilà. D'ailleurs, c'est une très belle histoire, puisque... J'ai déménagé en février 2020 dans un magnifique appartement parisien avec un balcon, ce qui est un privilège rare à Paris. Et donc, on s'est retrouvés confinés. Moi, je vis en famille. Et j'ai sympathisé avec le monsieur du balcon de l'immeuble d'à côté, puisque nos balcons se touchent. Et donc, on se retrouvait un peu comme des idiots, pour ne pas dire de gros mots, dehors, à s'ennuyer. Puisque, si
vous vous souvenez... À 20h, à taper dans tes casseroles.
Oui, éventuellement. Mais en février 2020, mars 2020 plus exactement, on s'est retrouvé vraiment bloqué chez nous. Et donc on a sympathisé, un coup l'un prenait une bouteille, un coup l'autre prenait une bouteille, et puis lui il m'a dit, moi je suis éditeur, et puis je vais peut-être faire un livre sur le vin, parce qu'on a une collection qu'on fait avec Grund, et donc voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont faites. Je ne sais pas si on peut dévoiler des choses, mais je sais qu'ils avaient discuté avec Philippe Forbrach de faire ce livre. Donc ça vous donnera peut-être une piste de conversation pour le podcast suivant.
Un trait d'union.
Mais voilà, il y a au moins un scoop. Vous venez d'entendre le scoop de ce podcast.
Et t'as piqué un job à Philippe Forbrach, en fait. C'est ça
que non, parce que je crois qu'il avait d'autres choses à faire. Et, voilà.
Alors que Gilles n'avait que ça à faire. Donc, il a pris
non, alors, ça n'était pas le sens de mon intervention. Non, mais donc voilà, donc on m'a proposé ce projet. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut tout dire tout de suite, peut-être pas, mais donc moi j'étais ravi, je ne me rendais pas tout à fait compte que c'était vraiment un bel ouvrage, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé par un livre de poche, j'ai commencé tout de suite par le gros livre, quoi. D'ailleurs, je me suis dit, bon, je ne ferai jamais rien de mieux de ma vie, je vais pouvoir mourir à 50 ans en ayant fait un livre. D'ailleurs, je disais ça avec humour et sérieusement à ma femme et mes enfants, je leur dis, bah voilà, si demain j'ai un accident de voiture, j'aurais fait un truc dans ma vie. C'est deux enfants et un beau livre. Et voilà, donc je remercie Nicolas Marsay d'Holo Édition de m'avoir confié la responsabilité de cet ouvrage d'un point de vue éditorial. Sinon, la deuxième réponse pour ceux qui ont suivi, c'est que donc je n'ai pas une passion exclusive pour le grand vin. Moi, je suis journaliste dans le vin. Je goûte, je bois tous les vins, j'apprécie tous les vins. Je suis très attaché au non-sectarisme. Hein, je trouve que l'époque est très sectaire. Il y a les natures qui détestent les autres, les bio qui n'aiment pas ceux qui ne sont pas bio, qu'ils appellent les chimistes. Enfin, tout le monde se tire un peu dans les pattes. Moi, je trouve qu'il faut toutes sortes de vins pour toutes sortes de gens. Hein, moi, je suis parisien. J'ai les moyens de boire des vins de qualité. En plus, c'est mon métier, donc c'est encore plus facile. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont amateurs de vin, mais qui ne peuvent pas mettre des sommes conséquentes, donc qui vont dans des supermarchés acheter des vins à moins de 10 euros. Donc il faut des vins pour tout le monde. Donc je suis assez attaché à ça. Mais j'aime bien aussi les grands vins. Et une des raisons qui m'ont poussé à travailler dans le vin, c'est que les grands vins, comme tout le monde, me faisaient rêver, en fait. Donc, et d'ailleurs, il y a un bar à vin qui s'appelle Grenoble à Paris, qui reçoit tous les ans Aubert de Vilaine pour déguster le millésime du domaine de la Romanée-Conti, 3 ans avant. Il se trouve que, bon, comme j'étais un peu passionné de vin, je me suis payé ça une fois. Et voilà, et ça participait de cette espèce de mystique autour du vin. Donc je trouve que les grands vins, qu'on ait les moyens de les acheter ou pas, qu'on ait souvent ou jamais l'occasion de les goûter, eh ben ils sont inspirationnels. Ce mot est affreux, je termine.
Et puis peut-être qu'on cherche les grands vins dans toutes les pépites abordables. C'est-à-dire que effectivement ça donne un horizon, une vision, une stratégie, un objectif qu'on n'atteint pas. Mais c'est effectivement moi je suis venu au vin aussi en ayant le fantasme de la Romanée-Conti. J'en boirai probablement jamais, j'espère un jour peut-être goûter à la tâche, éventuellement. Mais, comme c'est dit dans le livre d'ailleurs, la tâche est accessible probablement que la Romanée-Conti ne l'est pas. Mais oui, c'est un horizon et on cherche un bout de cet absolu dans tous les vins qu'on goûte, sans dire qu'il a un goût de Romanée-Conti, mais quand on va goûter un Vaune Romanée, lambda, entre guillemets...
Y a-t-il des Vaune Romanée lambda?
Non, mais
attention, abordable, c'est notre deuxième sujet.
Non, abordable, mm-hmm. À 40 euros, à 50 euros, ça arrive, c'est possible. Ben voilà, on essaie de s'approcher au moins géographiquement du mythe, si on l'a pas en bouche. Donc je pense que c'est le paysage global qui permet aussi d'avoir cette passion pour le vin.
J'ai envie de vous poser une question un petit peu à la ronde, que tout le monde donne un peu son avis. Qu'est-ce que c'est un grand vin? Ou qu'est-ce que c'est un vin d'exception? Si on fait une petite distinction entre les deux, tu en as sélectionné 100. Ça veut quand même dire, bon, d'abord que le livre ne pouvait pas faire non plus 3000 pages, mais que c'est, par définition, il y en a peu. Voilà. Mais qu'est-ce que vous mettriez, vous, derrière cette idée d'un vin d'exception, Laurent?
Ah.
Ça tombe sur toi, Valérie, peut-être. Ça t'inspire.
Valérie, je te laisse.
Oui, tout à fait. Bah oui, surtout que ça va être très intéressant, forcément. Sur les vins d'exception, je dirais que c'est vraiment typiquement le vin qu'on va ou jamais boire, en fait, jamais déguster,
c'est
ou très peu.
C'est l'idée du mythe que disait
c'est
Patrice.
C'est l'idée du mythe, ouais, c'est un peu ça. Après, c'est vrai que dans ma perception des choses, il y a effectivement les vins d'exception, donc ce qu'on appelle Oui, ou des grands vins. Et puis, il y a les bons vins. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu le... Voilà, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bons vins et voilà, qui sont adaptés en fonction d'un contexte, etc. Là, quand on parle d'exception, c'est vrai qu'on est... on s'attend aux vins quand on l'a en cave, où on va se demander à quel moment on va le proposer, à quel moment, avec qui. Est-ce qu'il est à la bonne température de service ? Est-ce que on se met un peu une pression supplémentaire ?
C'est très intimidant, un vent d'exception, Gilles.
Ou pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça le soit trop, parce que ça reste un vin. Donc, il faut avoir plaisir à le boire. Moi, j'aime beaucoup, là, les gens ne voient pas, mais on a une bouteille qui est masquée au milieu de la table, parce qu'on va goûter des vins. Et moi, je sers toujours les vins à l'aveugle, quasiment, chez moi, parce que je ne veux pas. Vous savez, d'ailleurs, les gens dont c'est le métier expliquent ça très bien, en fonction de la couleur, en fonction de l'étiquette, en fonction de... On fait un préjugement sur le vin, et une fois que ce préjugement est fait, notre espace pour vraiment l'apprécier pour ce qu'il est se restreint. Donc, moi, je pense qu'il faut, apprécier les... Donc, je sers souvent les vins à l'aveugle, parce que je ne veux pas que les gens se disent « Ouh là là, ça vaut tant ou pas beaucoup, et donc c'est plus ou moins bon. »
Voilà un discours qui te parle.
Quoi ta définition du vin d'exception ? Parce que c'est l'introduction... quand même du livre.
Est-ce que comme l'écrit Laure Gasparotto dans Le Monde, dans un article que tu nous as fait passer, Patrice,
Laurent,
c'est plus qu'un vin.
Certes, oui, c'est alors.
Okay. C'est plus que du vin.
C'est que Laure Gasparotto a un sens de la formule. C'est dans le sens où, parce que moi, je me suis posé la question quand on m'a confié la rédaction de ce livre, de justement, qu'est-ce que c'est un vin d'exception, quoi. Et donc, il a forcément un caractère exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il distingue ? Alors, moi, je ne voulais surtout pas que ça soit le prix qu'il distingue. Alors, on peut pas faire abstraction du prix, mais je voulais surtout pas faire un livre de les vins chers ou les vins trop chers. Mais je pense que une des notions qui pour moi est importante, c'est alors évidemment le prestige, la notoriété, mais c'est aussi l'antériorité. Moi, je trouve que l'histoire d'une propriété participe de son caractère exceptionnel, et c'est aussi sa capacité de garde, ce qui va faire qu'un vin, on peut avoir des tas de très bons vins, mais un vin d'exception, a priori, c'est aussi celui qui va durer dans le temps. Voilà.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec la notion de temps. Le temps, aussi bien l'histoire du domaine que la capacité de garde, et puis cette capacité à émouvoir dans le temps. Parce qu'en fait, je pense qu'un vin peut émouvoir sur un instant T, il est sorti, il a été embouteillé l'année précédente, on a du fruit, on a une émotion quelque part. Maintenant, c'est cette notion de pérennité à la fois du domaine et de l'émotion que le vin transmet. Moi c'est vraiment pour ça que je dirais que le vin est exceptionnel.
Et bon, après, si on essaie d'être un peu plus personnel, le vin d'exception, c'est un peu une rencontre mystique. Je pense que chacun a eu une rencontre mystique ou deux. Alors, c'est son vin d'exception. Moi, je sais que j'étais pas très grand. Je devais avoir 17-18 ans. C'est la première fois que je goûtais un grand Échezeau. Et c'est vrai que j'avais goûté un petit peu de vin avant. Mais là, on se dit, là, il y a un truc en plus, quoi. Et la dégustation devient mystique. Enfin... On ne veut plus l'oublier, enfin inoubliable simplement.
Oui, et puis faut pas oublier que le vin, qu'il soit d'exception ou pas, reste du vin. C'est une boisson alcoolisée. Alors il y a tout un travail derrière. Donc le vin d'exception, il peut être déceptif. Il faut accepter qu'il soit déceptif. Il faut surtout pas le ramener sans arrêt à son prix. Mais je suis assez d'accord avec ça. Et parfois on boit des vins dits d'exception et puis le vin n'est pas là. Il est passé. Il est fermé. Il est on a tous connu ces expériences, et effectivement, de temps en temps, c'est la magie. Moi, par exemple, je suis plutôt un amateur de Bourgogne, mais une fois, à une dégustation, il y avait un Lascaz 75, et il avait un peu plus de 40 ans, et je me suis dit, le jour où j'ai compris les grands Bordeaux, c'était là. Je me suis dit, il n'y a rien d'autre à dire.
Parlons d'un vin. Alors, est-ce que ce vin que tu nous as apporté, non, il n'est pas dans le livre ? On ne sait pas, en fait, on est à l'aveugle.
Non, alors voilà, le jeu, tout le monde doit le connaître. On m'a dit d'apporter une bouteille. Moi, j'ai plutôt joué la contre-programmation, suspense. Et je voulais que ça soit un excellent vin, mais pas forcément un vieux millésime.
Contre-programmation, c'est un vin tout à fait ordinaire. Toi, la dégustation à l'aveugle, forcément, ça te parle. C'est ton quotidien.
J'adore entendre parler de dégustation à l'aveugle. On s'est retrouvés là avec Gilles sur le fait que, pour moi, l'idée, c'est de débarrasser le client de tous les préjugés à la lecture de l'étiquette ou même à la forme de la bouteille, et de faire goûter à l'aveugle. C'est la base, parce que le plaisir qu'on prend avec le vin, il doit être dans le verre et pas sur tous les idées préconçues sur ce que le cerveau a construit. Moi, je suis toujours étonné que les clients ne puissent se projeter que sur une appellation prestigieuse et se dire « c'est là que je vais trouver mon plaisir ». Ça ne fonctionne pas comme ça, Dieu merci. Il y a plein de gens qui se font plaisir avec des vins qui coûtent moins de 10 euros et qui peuvent être très bons. Et la notion de perception de la qualité du vin, du côté exceptionnel du vin, elle dépend obligatoirement de l'histoire personnelle qu'on a déjà avec le vin. Puisque à partir du moment où tu as bu très peu de choses, un vin peut devenir vite exceptionnel. Quand tu as fait comme Gilles des dégustations toute une partie de ta vie dans des salons, dans des domaines, etc., ton exigence, ton attente sur les vins est supérieure et donc tu vas chercher l'exception plus loin, obligatoirement.
Mais est-ce que, en même temps, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que en même temps... quelqu'un qui n'est pas justement habitué à déguster des vins ne peut pas passer complètement à côté d'un vin d'exception. Parce que c'est comme tout, c'est de savoir. Enfin, si tu connais rien à la musique, bien sûr, peux aller voir une symphonie et bon, ça ne va pas te parler. Mais si tu as travaillé un peu le sujet, tu connais Beethoven et puis le jour où tu vas la voir, là tu ressens cette émotion.
Oui, oui,
il faut un minimum de culture œnophile quand même pour accéder à ces vins.
Oui, alors oui et non, parce que j'adore, je vais toujours... Mais,
la synthèse.
Oui, parce qu'évidemment, il faut former son palais, il faut former son goût, et plus il est formé, plus on est à même d'apprécier les choses. Mais en même temps, un grand vin qui est au rendez-vous, si on parle d'expérience mystique comme il y a 5 minutes, n'importe qui, même le plus jeune ou le plus junior, quand on goûte un grand Echezo à 17 ans, si le vin est là... on n'a pas besoin de savoir pour comprendre. Effectivement, parfois, le vin est moins là, ou il est plus dur, et donc là, il y a un travail d'analyse qui est plus important. Mais ce que je dis aussi souvent, c'est que... Et ça, c'est très intéressant. Attention, c'est le moment où il faut se concentrer. Mais dans le monde du vin, nous, les journalistes, les critiques, les sommeliers, il y a une espèce de culture de l'exactitude, de la maîtrise. Et puis, il faut montrer qu'on est un sachant, qu'on sait. Et effectivement, il y a un savoir qu'on peut acquérir. Mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à notre odorat, on a affaire à notre goût, on a affaire à notre mémoire sensorielle, affective, émotive. Et donc, on est tous, quelque part, prisonniers de nous-mêmes. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut... juger de façon objective. On peut faire un travail de jugement objectif sur un vin, mais malgré tout, moi, c'est toujours ce que je dis. Moi, je me considère comme un dégustateur septentrional, donc de la moitié nord de la France. Voilà, j'ai un goût qui me porte vers la fraîcheur, j'ai un goût qui me porte vers l'acidité, et donc je suis plus à même, à mon avis, d'apprécier ces vins qui ont ces caractéristiques que des vins plus puissants, plus tanniques, que mon goût naturel va me contraindre à avoir plus de mal à appréhender. Ce qui ne veut pas dire que je ne les aime pas et que je ne suis pas capable de les goûter.
Et je pense qu'effectivement, on te fait goûter un très grand champagne, mais tu n'as pas une appétence particulière pour les effervescents. Aussi exceptionnel que puisse être le champagne qu'on te fait goûter, est-ce que tu vas vraiment... le rencontrer ce jour-là, tu vois, c'est vraiment ça la question. C'est pour ça qu'il faut être prêt à ne pas apprécier un vin d'exception. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'obligation à l'apprécier.
Ça n'est pas qu'une question de savoir. Et d'ailleurs, déguster à plusieurs, c'est très intéressant. Moi, une fois comme ça, une chose très simple, on dînait avec un ami et il m'a dit « Ah, non, il est très astringent le vin ». Et moi, je lui ai dit « Ben non ». Et pourtant, je suis assez sensible à l'astringence, mais je me suis rendu compte que lui... peut-être que ses muqueuses étaient beaucoup plus sensibles que les miennes et que ce qui lui paraissait très astringent ne l'était pas pour moi. Voilà. Et c'est pas une question de je sais plus que toi, moi je suis un professionnel, pas toi. Et donc il faut avoir aussi un peu de... C'est important d'avoir du savoir. Trop de gens veulent avoir un avis et imposer leur avis. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle et avoir un peu d'expérience, c'est mieux. Et en même temps, on a tous des sens et voilà. Et puis moi quand j'étais plus jeune, j'aimais les vins boisés parce que le côté un peu vanille, gourmand, ça me plaisait. Et ben en évoluant, j'aime de moins en moins ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin qui est un vin blanc, je le dis, qui a une couleur vraiment très belle. La lumière est un peu,
c'est vraiment doré.
C'est magnifique.
Magnifique.
Une couleur très soutenue. Ouais.
Qu'est-ce que vous en diriez, les amis, de ce vin dont on ne sait toujours pas de quoi il s'agit ?
Non, je suis le seul à savoir, donc je ne dis rien.
À la bouteille, je dirais que c'est pas un vin d'Alsace. C'est tout ce que je peux vous dire.
On est sur un vin qui a des notes assez oxydatives, qui me séduisent énormément parce que moi je suis très sensible à l'oxydatif. Donc il y a une belle belle présence en bouche, hein, un vin qui est quand même très, très opulent, mais en même temps soutenu par une acidité qui est assez marquée.
Gilles, donc c'est toi qui l'as apporté, donc tu connais ce vin. Est-ce que déjà il est au rendez-vous de ce que tu connais?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, non.
Non,
je suis d'accord.
Pas tant que ça. Non, non.
Est-ce que c'est un vin qui a de l'âge? Modérément? Un petit peu quand même?
Moi, je dirais oui, spontanément. Un petit peu. Après.
C'est quoi
l'âge? Voilà. De quoi on parle?
De l'âge.
Exactement, mais. Un petit peu quand même.
Patrice, que dis-tu?
Je me jette à l'eau. Bon, moi, j'ai trouvé un nez très. Un peu dans je vais dire des gros mots, hein. Mais il y a eu quelque chose qui m'a pété en termes de un côté un peu pomme, cidre, etc. En premier nez, qui était très 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 présent. Moi j'aime beaucoup ce vin qui est très opulent. J'aime bien la fin, il n'est pas tannique, mais il y a des jolies amères en fin de bouche. Donc bon voilà, c'est hyper agréable. Je pense que sur un, on va pas faire des accords, mais sur un poulet de Bresse crémé ou etc. Moi je le situerais plutôt je le mettrais plutôt en Rhône personnellement, et plutôt en Rhône Nord, voilà, de ce côté là. Je prends des risques, mais une roussane, voilà, des choses jusqu'à l'Ermitage, mais je serais dans cet esprit là, voilà, mais je prends des risques.
C'est ça qui est magique avec la dégustation à l'aveugle, c'est que tout de suite
on
est dans la recherche. Non, mais ce que j'aime, c'est que voilà, comme le dit Patrice, on se jette à l'eau. On s'en fiche d'avoir raison.
Mais il joue bien le jeu, hein, parce que c'est un exercice qui est pas facile. Donc
où j'ai plutôt l'habitude de me planter, donc j'ai aucun.
On se plante tous. Toi, le jeune qui nous écoute, n'aie pas peur. Plante-toi avec nous.
Comme on va quand même parler du livre et pas passer trop de temps sur la.
On révèle ce que c'est.
La devinette.
Alors attention, là il y a.
Oui, alors Morgan s'occupe du son.
Ingénieur du son,
un petit coup.
On lui a donné envie et donc il vient de se servir un énorme verre de vin de 15 centilitres.
Alors mais, Gilles.
Non, mais ils sont très forts. C'est là qu'on voit qu'on est avec des gens quand même de haut niveau.
Il va nous humilier complètement après avoir fait cette introduction.
Jamais, j'ai une très bonne nature. J'ai apporté ça parce que. Voilà, on parle de vins d'exception, mais mon métier, c'est aussi de découvrir des vins. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime beaucoup le Jura, j'aime beaucoup la Savoie, j'aime beaucoup le Beaujolais.
C'est un Jura ?
Je ne cesse de dire à mes amis qu'il faut être curieux. Hein, voilà,
c'est une roussane.
Et c'est une roussane, voilà, exactement.
Cet après-midi, que moi, je trouve ça trop opulent en général. Je trouve que celle-ci est quand même...
C'est un Chignin Bergeron de Ludovic Archet, qui est un tout jeune vigneron. Ouais.
Très très chouette,
ça doit être ce que fait Ludovic. Deuxième ou troisième millésime, peut-être. Deuxième, je crois. Voilà. Donc, en fait, j'ai apporté cette bouteille. Alors, un peu parce que j'ai oublié d'en prendre une dans ma cave ce matin. Mais aussi parce que j'aime beaucoup la Savoie. Je trouve que c'est un vignoble qui est méconnu, qui est sous-estimé. Les Parisiens ont toujours leur histoire de mais moi, je suis allé skier à Courchevel et on a eu un vin dégoûtant avec la raclette à 47 euros en haut des pistes.
C'est tellement vrai.
Et je fais bien le Parisien. J'y vis depuis toujours. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'installent. La Savoie est une région très singulière avec son histoire, ses cépages. Et voilà, il y a des très beaux vins. Donc achetez des vins de Savoie maintenant. Dans 10 ans, ils seront connus, reconnus, pas seulement des amateurs. Mmh. Et il y a des très belles choses. Et donc voilà, Ludovic fait partie de ces jeunes vignerons. Il y en a beaucoup d'autres qui font des choses très ambitieuses. Et on peut dire, je ne saurais pas vous dire si c'est un vin d'exception. Mmh. On saura, voilà, puisqu'on parlait de la notion de temps. Donc on verra, on aura le plaisir à le redéguster, parce que je pense qu'on pourra le redéguster dans 10 ou 15 ans sans problème. Mais c'est un vin sérieux, dense, riche. Mmh. Voilà, alors
ça fait écho au jupon de Berlioz qu'on avait dégusté quand on avait fait la Savoie.
Et voilà quoi. Et en plus, il a cette petite coquetterie de changer ses étiquettes tous les ans. Tous les ans, il demande à un dessinateur ou un graphiste de lui faire des étiquettes. Et moi, je suis une des raisons qui m'a amené au vin, c'est que je voulais travailler mon odorat et mon goût, parce que mon sens fort, c'est la vue. Mais voilà, je suis quand même assez attaché à l'identité graphique des vignerons et des bouteilles. Et donc là, on a tout.
Hein, merci pour ce vin, il est effectivement très beau. La cuvée s'appelle Summertime. Un amateur de jazz, sans doute. Peut-être.
Peut-être.
Et effectivement, une jolie étiquette très graphique.
Il n'est pas vieux, il est 2020.
Il est 2020, donc effectivement,
il est tout jeune.
Il y a des vins de Savoie dans les 100
vins d'exception ? Non, alors il n'y a malheureusement pas de vins de Savoie.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait que 100, ou est-ce que parce que la Savoie aujourd'hui n'est pas encore en mesure de produire des vins qui seraient dans ce classement, des vins vraiment uniques,
etc. Ils peuvent produire d'excellents vins, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore une antériorité en termes de notoriété, en termes de qualité. En plus, là, je pense que la région est un peu un carrefour, parce que le réchauffement climatique fait qu'ils ont de meilleures maturités, alors qu'ils ont des climats frais. Il y a tous ces jeunes qui s'installent. Mais c'est vrai que, oui, non, c'était pas une évidence. Et pour répondre à ta question, la base de ce travail sur le livre, c'était de se dire... Parce que moi, on m'a dit, OK, tu dois faire un gros livre sur les vins d'exception.
Un brief très précis.
Tu reviens nous voir et tu nous dis ce que tu veux faire. Et donc, je me suis dit, comment on va organiser le truc? Donc, 120, bon, c'était une façon de dire, OK, voilà...
À un moment, il faudra arrêter le compteur, quand même.
Oui, puis ça fait un truc... ça fait un bon gimmick facile. Et puis, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met dedans, quoi? Et donc, moi, j'avais un attachement... où j'avais des attachements multiples. Alors, on m'a demandé que ça ne soit pas que des vins français, ce que je trouvais très bien. Mais comme je suis journaliste français en France, ça me semblait quand même naturel. Et puis, les grands vins, les vins d'exception, quand même, on n'est pas mal placé en France, quoi. Il faut arrêter de se flageller. Donc, je trouvais ça naturel qu'il y ait quand même à peu près les deux tiers de la liste qui soit française. Mais il y a un gros tiers qui est étranger. Et puis, j'ai raisonné un peu en me disant, il faut évidemment des Bordeaux et des Bourgognes. C'est un peu l'interville des grands vins, Bordeaux-Bourgogne avec la Champagne. Je vais essayer de me fâcher avec personne. Mais donc, en tout cas, j'ai mis 18 Bordeaux, 18 Bourgogne. Alors, je vais quand même me fâcher avec des gens parce que Bordeaux, c'est beaucoup plus grand que la Bourgogne. Donc, forcément, ils vont pas être contents. Mais... Et puis après, moi, j'aime beaucoup le Rhône. Mes premiers amours, c'est le Rhône Nord. Donc, il y a une jolie sélection de Rhône, en particulier du Rhône Nord. Mais j'avais quand même à cœur de tordre le cou du brief. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais très, très peur. Et quand j'ai vu le reste de la collection, je voulais pas un livre fétichiste d'objets chers. Voilà, je voulais surtout pas ça, quoi. Je voulais un livre hédoniste, d'histoire, un livre du monde du vin. Donc, je me suis dit déjà, il faut qu'il y ait des... Et puis, je me suis dit, les gens qui vont l'acheter, c'est pas des milliardaires hongkongais, sauf s'ils apprennent le français, mais c'est a priori des Français ou des Belges ou des Suisses. Et, salut la Suisse, j'aime beaucoup la Suisse.
Et, il y a Chapaz dans les...
Il y a Chapaz, voilà, j'aime beaucoup la Suisse, donc il y a Marie-Thérèse Chapaz. Et donc, je me suis dit, il faut qu'il y ait des vins... Alors, évidemment, il y a tous les grands vins, très chers, excessivement cher aujourd'hui avec la mondialisation et l'économie telle qu'elle est.
Oui,
mais en Bourgogne, il y a évidemment le domaine de la Romanée-Conti, il y a évidemment le Roi.
Rousseau.
Il y a tous ceux qu'on s'attend à trouver. Hein, il y a Lafite Rothschild, il y a Mouton Rothschild, il y a Lascaz. Enfin,
tu les as goûtés, tous ces vins?
Je les ai presque tous goûtés. Je les ai pas tous goûtés.
Est-ce que ça t'a donné accès en écrivant ce livre?
Est-ce que ce livre n'est pas un gigantesque prétexte pour aller dans des domaines et goûter des vins inaccessibles?
Alors j'adorerais vous répondre que oui. Les mauvaises langues, vous direz, les gens très fielleux disent ça. Hein.
Parce que nous, on a fait un podcast. Notre podcast, c'est un prétexte pour rencontrer des gens comme toi et boire des bons vins.
C'était pas du tout l'idée. Et je vais vous dire en plus, c'est beaucoup plus facile d'aller voir des gars sympas dans le Beaujolais ou des filles. Ou des filles dans le Beaujolais, en Savoie, en Jura, dans la Loire, n'importe où vous voulez, dans le Languedoc, que d'aller voir les grands domaines viticoles, qui sont souvent quand même assez fermés, quoi.
Ça nous parle.
Ça, on le pressent, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis curieux de savoir comment tu as été accueilli dans ton projet.
Oui, alors il y en a que je connaissais déjà. Il se trouve que j'aime bien la Bourgogne, donc je m'y étais déjà fait un petit réseau, entre guillemets. J'étais pas un inconnu pour eux. À Bordeaux, j'étais beaucoup moins connecté. Mais ça n'a pas toujours été facile. En plus, j'ai fait ça au premier semestre 2021, donc c'était en plein Covid. Ce qui m'a parfois beaucoup compliqué la tâche et qui me l'a parfois simplifié parce que tout le monde était chez lui.
Disponible.
Et les gens qui n'avaient pas trop peur, finalement, ils étaient contents de voir quelqu'un. Et donc, vous voyez, donc, par exemple, je suis allé traîner en Bourgogne et j'ai contacté les grands domaines de Chambol en leur disant, je suis là. Si aujourd'hui ou demain ou après-demain vous avez un moment pour moi, et j'ai réussi à voir tout ce que je voulais voir, quoi. Ce qui n'aurait pas été possible en temps normal, quoi. Après, attention, on n'est pas chez Hanouna, il n'y aura pas de polémique, après c'est Bordeaux par exemple, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, d'ailleurs je vais titiller un peu l'orgueil des Bordelais, mais j'ai eu plus de facilité à être reçu dans les grands domaines italiens grâce à Nicolas Munari qui m'a aussi ouvert quelques portes, mais j'ai été très bien accueilli dans certains grands domaines de Toscane. Les grands domaines bordelais, c'est pas toujours facile, quoi.
Est-ce que c'est un rapport finalement, une sorte de statut qui fait que bon, bah, en fait, ce qui sous-tend la question, c'est comment ces grands domaines restent aussi hauts, en fait. Une fois que les choses sont faites et établies, qu'on considère que ce vin, ce domaine est vraiment voilà, estampillé, il y a le système des classements de 1855 qui ancre un petit peu tout, une sorte de hiérarchie des grands domaines. Comment ils font pour continuer à produire des vins d'exception? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font qu'à un moment, c'est un nom, c'est un statut, mais le vin est-il toujours aussi exceptionnel?
Bah, alors, c'est vrai qu'on parlait du temps. C'est bien, ça va être notre fil directeur de ces 60 minutes qu'on passe ensemble, ou un peu moins. Mais donc, s'ils étaient déjà grands en 1855, c'est parce qu'il y a des raisons. Alors, parce qu'il y avait des propriétaires qui étaient riches, parce qu'ils travaillaient bien, mais aussi parce qu'il y avait des grands terroirs. Voilà, on va dire le mot un peu valise, mais qui est quand même important. Il y a des grands terroirs, et ils étaient déjà là au 19e, et sans doute même avant, dans certains cas. Après, c'est ce qu'on disait aussi avant, il faut accepter que le grand vin soit plus ou moins grand. Donc, les grands domaines, ils ont des époques, ils ont des propriétaires qui sont plus ou moins passionnés, qui mettent plus ou moins d'énergie, d'amour à tirer la quintessence de ce qu'ils font. Donc, il y a cette antériorité. Il y a quand même, c'est quand même des domaines qui ont les moyens de bien travailler. Hein, donc, souvent, ils sont à la pointe. Ça, rendons grâce à Bordeaux. Moi, ça a été une de mes joies de visiter un certain nombre de grands domaines bordelais. C'est que Bordeaux, c'est une très grande région du vin. Si vous leur demandez, c'est la plus grande région du vin, dans tous les sens du terme. Mais ils ont une fac d'œnologie extrêmement performante, ils ont des directeurs techniques extrêmement bien formés, ils ont des moyens, ils se posent des tas de questions. Enfin, c'est assez fascinant. Donc, ils ne sont pas grands par hasard, quoi. Ils sont à la pointe de tout. Et on a des discussions absolument passionnantes. Moi, j'ai eu la chance de Margaux, Château Margaux, m'a très bien reçu. J'ai été reçu par Philippe Bascol, qui en est le directeur. Donc, j'étais ravi, hein, parce que c'était pas toujours le cas. Parfois, j'avais quelqu'un qui était délégué à ma visite, entre guillemets. Et j'ai adoré discuter avec lui, hein. J'ai adoré discuter technique, discuter pourquoi le bio, c'est intéressant. En fait, il m'a dit, grosso modo, je voudrais pas trahir ses propos, mais il m'a dit, le bio, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et ben, c'est génial. Donc, en fait, le type, il veut aller plus loin, il veut se poser plus de questions, il veut faire plus de recherches.
Voilà. Beaucoup des vins qui sont dans le livre sont justement dans une démarche bio.
Il y en a, mais pas tous. C'était pour moi pas un critère de sélection. À titre personnel, j'aime beaucoup les démarches bio ou biodynamiques, mais elles ne sont pas exhaustives. Je pense encore une fois que la binarité, ce côté le bio c'est bien, donc ce qui n'est pas bio c'est mal, bon, pour moi c'est une connerie. Hein. Non pas que je trouve les démarches bio très intéressantes, c'est un mouvement que je valorise. Pour tout vous dire, je vais vous faire une confidence. J'ai une femme qui ne veut manger que bio, donc on ne mange que bio à la maison, donc je trouve ça très bien. Mais ça n'est pas la panacée universelle. Alors pour le grand public, c'est très compliqué d'aller dans le détail de ces questions-là. Hein, c'est pour ça que c'est difficile, quand on atteint certains niveaux techniques, de porter la parole vers le grand public. Mais ça pose tout un tas de questions. Et la meilleure réponse n'est pas forcément la réponse bio. Il y a des domaines qui se posent beaucoup de questions, et pas que pour des raisons économiques. Hein, mais, et surtout, il faut sortir de les gentils et méchants. Surtout, voilà, si on peut... moi, si je peux passer un message aux gens qui nous écoutent, sortez de ça. Moi, après, tout le monde n'est pas dans le vin, tout le monde. Mais moi, j'ai des amis qui disent, moi, je bois que du vin nature. Alors, ça, c'est tout chimique, c'est Monsanto, c'est les criminels. Ben non, les gars, là, détendez-vous un peu.
Je te rassure, c'est pas comme ça ici. Même si on a aussi cette.
Et puis par exemple, Jacques-Frédéric Munier à Chambol-Musigny. Vient de sortir du bois, entre guillemets, puisqu'il a publié sur son site internet toute une explication sur pourquoi il n'adhère pas à la biodynamie. Et quand je l'ai vu, d'ailleurs, il m'a un peu battu froid, parce que je lui dis « Ah, moi, je trouve ça super, la biodynamie. » Là, j'ai senti que j'avais pas marqué des points. Eh bien, il avait pas envie d'être embêté, mais il a fini par faire toute une explication sur son site internet sur pourquoi il n'adhère pas à la biodynamie. Il l'a beaucoup plus lu que moi, hein. Steiner, tout ça, qui était une sorte de philosophe gourou du début du XXe siècle, il y a tout n'est pas fréquentable, on va dire. Et donc, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que voilà, il y a des démarches, elles sont très positives, elles apportent des choses, elles aident les vignerons à changer leurs pratiques, à s'appuyer sur des modèles. Mais il faut, voilà, il faut pas être binaire. Et surtout, il faut pas, je conclue là-dessus, excusez-moi, il faut pas, moi je vais dans toutes les régions, il y a des régions où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, hein, c'est des économies précaires le vin, hein. Là on parle de grand vin, donc, mais pour beaucoup de gens, de paysans, c'est des économies précaires. Et donc les gars, c'est pas qu'ils, ou les filles, c'est pas qu'ils ont pas envie de bien faire ou de faire autrement, c'est qu'ils font aussi en fonction de la structure économique. Donc ils font du mieux qu'ils peuvent compte tenu de leurs contraintes économiques. Et faut pas leur jeter la pierre.
Moi je me posais une question justement par rapport à l'accueil que tu as reçu, etc. Tu avais une liste cible au début de la démarche. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, enfin des domaines que tu as finalement enlevés ou rajoutés, enfin évidemment rajoutés, puisque tu es resté sur un chiffre, j'imagine, constant de 100.
Merci à tous, on va arrêter l'émission ici. Hein, je trouve cette question absolument insupportable, je vais jeter mon casque.
Et pour faire écho, je trouve inadmissible que le vin qui est dans ton verre n'y soit pas.
Mais non, alors j'ai arrêté une liste au départ, hein, que je trouvais bien, et je ne l'ai quasiment pas changé en fait.
D'accord.
Voilà, alors pour tout vous dire, parce que je ne suis pas allé au bout de mon propos, même si on n'entend que moi dans cette émission, c'est fatigant, mais je voulais être assez proactif pour aussi montrer qu'en dehors de la Champagne, de Bordeaux, de la Bourgogne, de la Toscane, du Piémont, il y avait des grands vins, ou des grands vins potentiels ailleurs. Donc, par exemple, je voulais mettre deux domaines du Beaujolais. Parce que c'est une région que j'aime bien, et je me suis dit, il y a des grands terroirs, il y a potentiellement des grands vins, et bon, ils reviennent d'une période où ils ont été un petit peu loin, hein, avec le Beaujolais nouveau. Mais aujourd'hui, ils en font des très bons. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à me faire recevoir d'un des domaines, et comme je n'avais jamais goûté ces vins, un peu vexé, hein. Allez, j'avoue, je suis humain, j'étais un petit peu vexé.
T'es resté sur un domaine.
Voilà, je n'ai gardé que le domaine que je connaissais.
Le domaine des vignes.
Voilà, le domaine.
Ça nous parle un peu.
Le domaine des vignes. Que vous avez reçu.
Oui, bien sûr. Enfin,
qu'on est même allé voir, plutôt.
Ah, oui, on était sur place en Beaujolais. On a eu.
Les vrais professionnels du vin, c'est ces gens, ils savent tout.
La vigneronne à notre micro, j'ai oublié son prénom là, qui va revenir.
Cécile. Oui, Cécile. Je ne sais plus, c'est Marie-Cécile ou c'est Cécile, oui. Desvignes. Ouais.
Alors, il y a le Louis Benoît et. On se retrouve après un jingle. Non, ils aiment beaucoup les doubles prénoms dans le Beaujolais.
Oui.
Les amis, moi, j'arrive pas à retenir les noms, j'arrive pas à retenir les prénoms. Arrêtez avec les doubles prénoms. Chez Thivin, c'est pareil. Oui. Enfin, tout ça pour rebondir intelligemment sur le fait que je voulais qu'il y ait une petite partie, puisque évidemment.
Oui, ça m'a beaucoup parlé, cette petite partie.
On a découpé.
Justement.
Il fallait trouver un découpage intelligent.
Les exceptions, hein, de demain.
Donc, on a fait ceux de toujours, donc qui avaient une histoire longue et qui étaient là parce qu'ils avaient une histoire longue. Il y avait ceux qui étaient grands, on va dire, depuis l'après-guerre, quoi, ou en tout cas qui avaient fait leur notoriété plus récemment. Et moi, je voulais qu'il y ait une petite partie, pas forcément nature, mais découverte, en tout cas, de jeunes domaines. Donc, au début, je voulais en mettre une dizaine. Je crois finalement, il en reste que 8, parce que je me suis un peu planté. Faute avouée, à demi pardonnée, je me suis un peu planté par exemple sur l'Italie. Il y a des domaines dont je pensais qu'ils étaient en pleine ascension et on m'a dit, mec, ils sont connus depuis 30 ans, quoi, tu débarques. Mais ça me paraissait important par jeu, par goût, c'est-à-dire de me dire, tiens, est-ce que quand on va lire ce livre dans 10 ans, il ne faut pas qu'il soit has-been ? Voilà, c'est bien de mettre des jeunes aussi qui ont du potentiel.
Et alors, puis, qui sont-ils, ces exceptions de demain ?
Ça m'a pas mal interpellé, parce que, bon, effectivement, j'ai noté Bellargus, qui est un domaine dont j'estime avec toi qu'il y a probablement potentiel.
En Loire. Dans la Loire, près de Savenière, en Anjou Noir.
L'ancien domaine de Jopiton, qui a été repris par Yvan Massonnat. Dont on a goûté les vins, etc. Et effectivement, quelqu'un qui se donne les moyens de faire de ce domaine quelque chose d'incroyable. Sur un tout autre registre, Eric Pfifferling à Tavel, avec le domaine de Langlore, dont effectivement aujourd'hui.
Mon Dieu, un gardois.
Dont aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que c'est le gardois, en tout cas, le plus instagrammable du monde, puisque toutes ces bouteilles sont systématiquement mises en avant sur Instagram. Mais dont personnellement je me dis bon bah oui, il y a un homme derrière cette histoire de Tavel, enfin de Langlore. Quid de la durabilité de la démarche, etc.
Il y a une prise de risque à citer comme voilà. Ça des vins d'exception de demain.
Oui, c'est deux approches totalement différentes, enfin à mon sens totalement différentes. On a une démarche, j'aime pas dire industrielle, parce que, et puis je pense que je vais me faire taper dessus par Yvan, mais en tout cas une volonté d'investissement incroyable d'un côté sur ce domaine, et de l'autre côté une démarche plus sur le long terme d'un travail individuel. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est effectivement deux approches très très différentes pour avoir choisi ces deux domaines. Et c'est ça que j'essaie de...
Oui, mais voilà, c'est encore une fois, non pas la volonté d'exhaustivité, mais de ne laisser personne. Et puis comme c'était un peu la partie recherche et développement, et ben je trouvais ça intéressant de mettre des gens très différents. J'avais à cœur de mettre des gens qui sont identifiés comme nature. Alors, je suis très prudent avec cette terminologie-là, mais voilà, je trouve qu'on peut faire des grands vins dans des tas de styles, hein, et que c'est un vin nature, s'il est bien conservé, s'il est bien fait au départ et s'il est bien constitué, il n'y a aucune raison qu'il ne se garde pas. Voilà, donc il y a aussi, on a parlé des Devines, donc c'est Claude Emmanuel.
Hein, merci.
Voilà, donc pardon.
Claude Emmanuel.
Pardon. C'est le domaine Louis-Claude Devines, donc elle, c'est Claude Emmanuel. J'étais très content, voilà. J'ai mis Charles Lachaud, du domaine Arnoux Lachaud à Vaune-Romanée. Alors vous allez me dire, la prise de risque là, elle est limitée. Et en même temps, si vous faites avec moi un voyage dans le temps, alors attention, on va revenir presque 2 ans en arrière, on est en février 2021, et je cherche des jeunes qui sont prometteurs, et donc on me parle de Charles Lachaud, et donc je suis allé le voir, moi je le connaissais pas, hein, et donc j'ai passé un moment avec lui, c'était une belle rencontre, donc je l'ai mis dans le livre. Alors aujourd'hui, ça fait ricaner tout le monde, mais il n'était pas encore hyper connu, quoi. Ça commençait un peu, et puis il a pris un prix à Londres du meilleur jeune vigneron du monde. Et alors là, là c'est comme s'il avait fait la Starac, quoi. Sa vie a changé radicalement du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je fais ça pour te tendre la perche, parce que on est un peu au cœur aussi de cette question des vins d'exception. C'est voilà, le statut du domaine a changé, mais quasiment en 24 heures. Ce garçon qui est extrêmement sympathique, qui a des idées très claires sur ce qu'il veut faire, qui fait un super travail, mais il se retrouve un peu dans l'œil du cyclone. Les prix ont explosé instantanément d'une façon absolument surréaliste.
Parce que c'est ça aussi, cette idée de vin d'exception, c'est une image qui à un moment est collée à un domaine, et la spéculation qui part en flèche. Est-ce que la spéculation, c'est pas le j'allais dire, c'est le pire ennemi du vin? Bah, pas pour le vigneron, il va bien gagner sa vie si ces vins ont la chance d'être classés dans ce type de classement. Mais en même temps, ça repose souvent sur, c'est ce qu'on appelle les buveurs d'étiquettes. Je veux boire celui-là, celui-là, celui-là.
On a encore une heure là, c'est un sujet qui me passionne.
C'est un vrai sujet
alors,
quand même.
Oui, c'est un vrai sujet. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que c'est un peu frustrant pour nous tous qui aimons le vin, que ces vins soient devenus extrêmement chers. Michel Bétane, notre maître à tous, il a commencé sa carrière à la fin des années 70 ou au début des années 80. Il allait au restaurant, il se tapait des chevals blancs, des trucs comme ça. Enfin, ça lui coûtait moins de 100 balles. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, un jeune, ou même moi, ne peut plus du tout faire ça. Bon, tant mieux pour le monde du vin. Hein, c'est quand même assez magique que cette chose qui était quand même très européenne au départ et comme ça est s'aimée partout dans le monde, et qu'aujourd'hui partout dans le monde les gens ont envie de boire du vin, donc c'est un peu magique. Après, c'est vrai que j'en parlais encore avec un producteur bordelais aujourd'hui, la mondialisation a fait que beaucoup de gens, beaucoup de pays se sont développés, il y a de plus en plus de gens riches, qui ont des moyens dans plein de pays du monde, ils ont envie de boire des vins, des grands vins. Donc, il y a un décalage qui se fait entre une région comme la Bourgogne, qui est toute petite, et puis une demande mondiale qui est extrêmement pressante. C'est inévitable que ces vins deviennent chers. Après, il ne faut pas oublier que, parce qu'on est tous pareils, hein, on est tous un petit peu orgueilleux, on veut tous goûter, on est tous, un moment ou un autre, un buveur d'étiquette. On vit très bien sans boire de domaine de la Romanée-Conti. On vit très bien en buvant, mais
on vit même mieux.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand même aujourd'hui, les vins ont fait beaucoup de progrès. Donc, il y a d'excellents vins à tous les niveaux de prix. Hein.
Y a-t-il de plus en plus de vins d'exception?
Certainement, j'en suis convaincu, je réponds du tac au tac. Mais pour terminer sur cette histoire de... Oui, la spéculation, c'est un problème. Alors, je vais faire une digression qui sera très courte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation économique qui fait qu'il y a beaucoup de capitaux en circulation qui fait aussi qu'on marchandise tout, donc que la bouteille de vin est devenue une marchandise parfois spéculative, oui, ça brouille un peu les cartes. Je ne sais pas si c'est la joie ou le malheur d'un certain nombre de vignerons. J'aime beaucoup discuter avec les vignerons de Bourgogne.
Je pense que il y a quand même un effet de spéculation sur les intermédiaires. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que le vigneron, justement, ne touche pas toujours la juste rémunération du prix de vente final de la bouteille.
Non, puis c'est
ça qui est le plus choquant pour moi.
C'est une question infinie et puis un peu complexe, parce que dès qu'on parle d'argent en France, c'est toujours un peu compliqué. Mais effectivement, il y a des emballements spéculatifs qui ne sont pas le fait des domaines. Et les domaines bourguignons sont sans arrêt confrontés à ça. Est-ce qu'il faut augmenter et puis essayer de contrôler le marché.
Ils luttent même contre ça, parce que quand ils refusent d'en vendre au détail et qu'ils imposent la vente uniquement sur table au restaurant, c'est aussi pour éviter les bouteilles ensuite soient revendues, qu'il y ait des enchères.
C'est une question permanente, d'ailleurs, qui est un peu triste, parce qu'on en vient à plus parler de ces questions-là que de parler de leur métier et du vin. Ce qui est intéressant, on va faire très court là-dessus, mais il y a des gens qui sont en train de mettre en place des systèmes de NFT, donc des non-fungible token, c'est-à-dire des droits de propriété qui feront que les bouteilles ne sortiront plus du domaine, pour justement essayer aussi de lutter contre cette circulation des bouteilles. Et donc on verra, ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement les vignerons aient la juste rémunération de leur travail. Et puis après, on peut pas empêcher les gens et les intermédiaires de spéculer, quoi. Mmh. Jusqu'au moment
on peut pas.
Où ça s'arrêtera. Parce que n'oublions pas que une bouteille, quelle qu'elle soit, c'est 75 centilitres de boisson alcoolisée à consommer avec modération dans un contenant en verre. Voilà.
Avec modération ou avec des amis.
Oui.
On va forcément, il va y avoir un terme à cette émission.
Oh non,
il faut qu'on parle du vin
que
Patrice a servi dans les verres. Lui aussi, il est à l'aveugle, il est dans une carafe. Et il est rouge. Il a une belle robe. Je l'approche de la lumière, mais c'est rouge, violacé. Il est trouble.
Oui, il est trouble.
Il n'est pas limpide du tout. Il y a un petit côté framboise, même si on cherche les notes. Je parle de couleur, hein, pas de goût. Qu'est-ce que... Bah tiens, Gilles, là, c'est toi qui vas commencer.
Vous n'êtes pas sympa.
Il avait le nez dedans.
Juste de le goûter. Non, alors, c'est très bon. C'est un vin
et
rouge.
Après, réfléchissez. Je fais juste une parenthèse. Réfléchissez chacun au vin d'exception, le vin le plus exceptionnel que vous ayez bu, et vous en direz un mot et on terminera là-dessus. Gilles.
Non, c'est très bon. Je suis un peu déconcerté parce que je ne sais pas où on est. Parce qu'en fait, c'est assez fruité. Il y a un petit côté cerise, c'est assez gourmand. Moi, mon premier instinct, je me suis dit, ça pourrait ressembler à un joli Cabernet Franc de Loire. Et en même temps, il y a un petit tanin, il y a un peu d'épices. J'ai pas d'avis, mais c'est un joli vin, ouais. Ça c'est sûr. Ouais.
Est-ce qu'il a un petit peu d'âge ou pas?
Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il est... Je réponds parce qu'il faut pas faire de blanc dans les podcasts. Hein, mais moi j'aime bien parce qu'il est assez punchy, donc il m'a pas l'air très vieux. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de fruits jeunes, donc il a peut-être quelques années, mais je pense pas que ça soit un très vieux vin.
Beaucoup d'énergie en effet.
C'est un vin, enfin, je ne sais pas si c'est un vin d'exception, mais c'est un vin qui a une histoire exceptionnelle. Là, le vin, il est de 2011.
Ah oui.
Valérie, tu veux jeter à l'eau ?
C'est vrai que par rapport à sa robe, là, c'est vrai que c'était. Enfin, il y a quelque chose qui me faisait dire qu'il y avait quand même un petit peu d'années. Après combien ? Un an, là, je n'étais pas du tout. Je n'étais pas forcément là, mais oui. Oui, il est quand même sur le fruit, sur la fraîcheur. C'est quand même assez surprenant. Ouais. Parce que je n'aurais pas dit autant. Si vieux.
Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est qu'il y a une très jolie trame tannique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce
de... Il y en a encore sous le pied.
Surtout, il y a une espèce de colonne vertébrale tannique qui est très fine et qui, en même temps, tend le vin comme ça. C'est très plaisant en bouche. Oui.
C'est un vin qui a une histoire intéressante, qui est plutôt un vin du sud, en fait. Qui est plutôt du côté des Baux-de-Provence. Qui est plutôt le domaine de Trévalon.
Ah.
En 2011. Et donc c'est un vin qui a une belle histoire, parce que c'est un vignoble qui a été créé par Elodie Urbach, qui est mort il n'y a pas très 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 longtemps, et qui a créé ex nihilo ce vignoble à partir de 1973. Il a hérité de son père, qui était un artiste. D'ailleurs, les étiquettes sont encore les dessins du père. Ils avaient acheté un domaine, donc René Tarmac, qui était le père, était un ami de Picasso, un artiste plasticien plutôt cubiste. Il habitait dans le sud, et il a acheté ce domaine, à côté Trévalon, et il a dit à son fils, bah là, je pense qu'on peut faire du très bon vin. Il n'y avait aucune vigne, c'était un terroir calcaire. La France a la chance d'avoir 55% des terroirs archélo-calcaires vinifiables dans le monde, et ça, c'est la grande richesse de la France, hein, parce qu'on sait que les calcaires sont souvent des vins très tendus. Et ex nihilo, il a créé 17 hectares, 15 hectares de rouge et 2 hectares de blanc. Et donc en IGP, puisque Cabernet Sauvignon plus Syrah, c'est un 50-50. 50% Cabernet Sauvignon et 50% Syrah. Ça n'existe pas, en tout cas dans l'AOC des Baux-de-Provence. Et voilà, c'est un vin qui a créé son histoire aussi, hein, qui est maintenant assez connu, très valant, comme un peu la Grange des Pères. C'était un peu la même philosophie, en tout cas, de sortir de l'appellation pour ramener, en fait, des cépages qui sont antérieurs, hein, puisqu'il y avait, l'histoire veut qu'il y avait du Cabernet Sauvignon avant le phylloxéra dans cette région, donc au Baux-de-Provence. Et voilà, et donc le vin a maintenant sa notoriété, et côté très, il est élevé 2 ans. Avant d'être mis sur le marché, et voilà, les enfants des lois d'Urbach, et je crois que c'est Francine
ont repris le flambeau
récemment. Donc voilà, domaine des Trévalons, je pense il y a un petit dédicace à la Grange des Pères en introduction du livre.
Ouais, exactement.
Et le domaine de Trévalons, pour moi, était un peu dans la même philosophie de la Grange des Pères, c'est-à-dire de créer des vins avec une vraie démarche esthétique et artistique. Ça fait partie pour moi des vins d'exception abordables. Puisque même si aujourd'hui, cette bouteille-là précisément est à 130 euros sur Edelwine, moi j'ai pu l'acheter 45 euros il y a 7-8 ans. Donc il y a des vins d'exception. Alors après, on peut débattre si c'est un vin d'exception ou pas.
C'est en tout cas un grand vin. Ouais.
C'est un, voilà.
Et au lieu de spéculer et de revendre, tu l'ouvres.
Ben voilà, ça vaut le coup de le boire.
Aujourd'hui.
Nous sommes heureux de l'avoir partagé.
Moi je reconnais ni... Alors, c'est pas comme si j'étais une référence en dégustation, mais je reconnais ni le Cabernet Sauvignon, ni la Syrah, et je serais allé aussi sur un Cabernet Franc. J'ai l'impression d'y retrouver voilà, ce côté-là, je sais.
Ah, mais il y a des jolis arômes de fruits. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié là, dans ce vin, c'est que j'aime pas quand il y a des équilibres sur l'alcool. Hein, donc parfois, dans les vins du Sud, il y a beaucoup d'alcool. Ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne souvent en dégustation. Et j'aime pas quand il y a des surmaturités, c'est-à-dire quand ça prunote. Quoi. Et là, c'est fabuleux parce que c'est un vin du Sud, mais qui est très frais.
En fait, voilà, il y a un côté très séveux lié à la grappe entière, puisque le Trévalon vinifie essentiellement en grappe entière, ne rafle pas. Et je trouve qu'on trouve le côté, alors quand on le sait c'est plus facile, mais le côté tendu et séveux, et un peu vert, mais au sens très végétal, qui donne, je pense, la fraîcheur du vin dans le temps, en fait.
Ouais,
et Trévalon, c'est pas un vin qu'on boit jeune, en général. Là, à 11 ans, on est déjà... c'est limite. Enfin, on peut commencer à le boire, là, pour le coup, c'est un vin nature, parce que il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de label Biodi, etc., etc. Mais dans Trévalon, et ça se voit d'ailleurs.
Oui.
C'est pas du tout limpide, c'est pas filtré. On peut le voir. Hein, le vin est trouble. Mais voilà, ça pour moi, c'est un vin d'exception parce que voilà, c'est un équilibre esthétique en allant vers une démarche Biodi sans le dire, hein, mais en travaillant le plus naturellement possible en grappe entière. Et on peut faire donc des vins tendus, frais. Mais bon, après, encore faut-il maîtriser la rafle dans sa vinification. Et je trouve que Trévalon y est bien arrivé.
Mais c'est un bel hommage à Éloi d'Urbach, que moi je n'ai malheureusement pas connu. J'étais pas familier de Trévalon, qui est un peu le mentor de Marc Delienne, un vigneron de Fleury que j'aime beaucoup. Et puis moi, j'avais rendu hommage à Laurent Vaillé de la Grange des Pères, parce qu'en fait, ça faisait partie des gens que je voulais aller voir. Donc je m'étais dit, bah tiens, j'irai le voir pour le livre. Malheureusement, il est décédé pendant que je faisais ce livre. Et c'est vrai que c'est très étonnant, mais il y a des moments comme ça, parce que bon, quand on fait un livre, enfin moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre, donc ça a été beaucoup d'heures passées tout seul à mon bureau. Et donc ça m'a beaucoup ému que ce monsieur que je n'avais jamais rencontré soit décédé. Je sais pas, ça m'a saisi. Voilà, on parlait de mystique ou de... Et donc, oui, ça me semblait normal de lui dédier le livre. Enfin, ça a été un grand moment d'émotion.
Rendez-vous manqué, un rendez-vous dont tu te réjouissais peut-être.
C'est ça. Et puis bon, voilà, c'est toujours triste quand les gens partent trop tôt. Hein, enfin, et puis c'est un monsieur qui avait créé ex nihilo avec sa famille un domaine. Enfin, c'est aussi une histoire merveilleuse, quoi.
Allez, il va falloir s'arrêter. On le fait ce tour de table ?
Bah oui.
Valérie, t'as réfléchi ? C'est quoi le vin le plus exceptionnel, le plus grand vin d'exception que tu as eu la chance de goûter ?
C'est un château Aubryon 1970. C'était il y a une dizaine d'années.
Aubryon est dans le livre, hein ?
Oui, évidemment.
Et bien sûr. C'est donc, c'était un grand moment. Sur le moment, c'est vrai qu'on me l'a offert. J'ai hésité à l'ouvrir, d'ailleurs, parce que je me suis dit, est-ce que je ne vais pas être un peu déçue, etc. Et puis, au début, quand je l'ai goûté, comme je n'avais pas l'habitude de boire des vins vieux, c'est vrai qu'après, c'est aussi un palais, parce qu'il faut s'habituer aussi. On a plus l'habitude de boire des vins qui ont 3, 4, 5 ans, 10 ans, en fonction des régions. Et c'est vrai que là, c'était un peu particulier, mais j'ai trouvé après qu'il avait, on était trois autour de la table, parce que je l'ai fini par l'ouvrir et à proposer un repas sympathique à deux de mes proches, qui étaient d'ailleurs très contents d'être là, et qui m'ont remercié d'ailleurs pour le repas, et on a trouvé qu'il avait un goût de trop peu, après, parce qu'au début, elle trouvait qu'à l'ouverture, c'était un peu particulier. Mais en fait, c'était très 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 bien. C'était grand.
Patrice, tu nous as déjà parlé de ton grand échouement.
Oui, non, mais voilà mon
adolescent.
Non, mais un Angelus 97 avant qu'il passe en premier cru classé A, parce que je pense qu'ils sont passés en 98. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert qu'est-ce que c'est. J'avais jamais bu de vrai. Enfin, je trouvais pas ce qui était intéressant à Bordeaux en fait par rapport aux vins. Non, mais jusqu'à non, mais le vin, c'est un parcours. Oui. C'est un parcours initiatique. Et effectivement, là, quand j'ai bu Angelus 97, qui avait à ce moment-là, ça remonte à 15 ans, j'ai vu des voilà le taffetas, le côté hyper doux, le tabac blond, le cuir, enfin, tout un environnement aromatique que je n'avais pas connu avant dans les Bordeaux. Et là, je me suis dit, effectivement, les grands Bordeaux vieux, c'est quand même quelque chose, enfin vieux, qui ont évolué sur les notes tertiaires, c'est quand même, voilà, ils méritent, enfin voilà, bien sûr qu'ils le méritent, tout le monde le dit. Mais moi, je ne l'avais pas vécu, et là, je l'ai vécu sur cet Angelus 97.
Et dans le livre Angelus ?
Pas de polémique.
Il n'est pas obligé de répondre.
Si, il est dans le livre.
Ouais. Laurent, c'est ton tour.
Voilà, moi, j'ai le bec sucré, moi. Donc, moi, c'est Ikem. J'ai eu l'occasion de goûter Ikem. Il y a, c'est pas si vieux que ça. Hein. Mon histoire avec le vin, moi, est assez récente, finalement, au regard de mon âge. Et Ikem, ça doit remonter à 10-12 ans, lors d'une dégustation comme ça, qui était organisée par le célèbre journal Les Échos. C'était, en fait, bon, on parlait de l'émotion, c'est la persistance aromatique, c'est le fait de se dire, je vais pas me brosser les dents pendant 10 jours pour garder ce goût, quoi. Enfin, c'est sordide ce que je suis en train de dire, mais...
Oui,
c'était il y a longtemps, depuis.
Je me suis brossé les dents.
Il faut finir sur des choses très positives.
Mais non, c'était juste... ouais, ça m'a transporté, j'avais vraiment envie de prolonger ce moment, le plus longtemps possible. Ouais. Ouais.
Gilles, alors, peut-être qu'il faudrait le formuler autrement, c'est la plus grande émotion, parce que si tu en as bu comme ça des dizaines et des pelletées, la plus grande émotion face à un vin d'exception.
Non, mais je vais revenir à ce que j'ai dit au départ, et je vais être un peu fidèle à ce qui a formé mon imaginaire. Moi, c'est vrai que pour moi, le domaine de la Romanée Conti...
on est dans le mythe absolu. Là.
Voilà, mais indépendamment de son inaccessibilité, moi ça m'a longtemps fait rêver, ça continue à me faire rêver. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour Aubert de Villaine, qui est un monsieur âgé, qui a passé le relais à son neveu, mais qui a incarné aussi ce domaine pendant plus de 40 ans, qui est un monsieur très éduqué, très digne, sans doute un peu orgueilleux, mais vous savez, c'est quand on a un succès comme ça extraordinaire, c'est bien d'avoir une colonne vertébrale comme dans le vin. Et donc un de mes grands souvenirs de dégustation de ces vins, que contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne déguste pas tous les quatre matins, je ne suis même jamais allé au domaine goûter. Mais Aubert de Villaine était une fois venu en Alsace, où ils avaient formé une association comme ça pour donner envie aux jeunes vignerons, notamment de se former, d'aller vers les grands vins. Et donc, ils avaient fait venir Aubert de Villaine à une session, c'était peut-être il y a 5-6 ans, de 2016-2017, et il y avait une tâche 99, et voilà. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un grand vin à maturité, voilà. Et puis, j'ai compris aussi la fascination que ça pouvait exercer sur toute l'assistance. Hein, devait y avoir une bonne cinquantaine, voire plus de personnes, et les vignerons se chamaillaient après pour repartir avec la bouteille. Et c'était vraiment un grand vin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que effectivement, c'est pas un vin qu'on a souvent l'occasion de boire, mais voilà, y a, on, parfois, comme ça, dans des dégustations, on peut, il n'y a pas besoin d'en boire trois verres, hein, de 3-5 centilitres, on est content. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfumé par les mirages du marché. Moi, j'en parlais encore avec mes collègues. Il y a une espèce de coquetterie à dire « Ah ouais, là, t'as vu, il y a une Romanée Conti qui s'est vendue 55 000 $ à New York ou je sais pas quoi. » C'est des vins qui... C'est évidemment des vins très prestigieux, hein, qui sont chers, mais ils sont pas si chers à la sortie du domaine.
Ils sont très difficiles à trouver.
C'est juste qu'on peut pas les
on peut pas les acheter. Oui. C'est pas tant leur prix.
Ouais. Mais écoutez, c'est peut-être une bonne conclusion. Vous ferez l'article de ce magnifique livre dont on a parlé pour moi. Mais moi, voilà, quand je suis allé à Grenoble assister à cette dégustation avec Aubert de Vilaine, ça m'a transporté. Et donc, je me suis fendu, puisque j'aime bien écrire, d'une très belle lettre au domaine, en disant, moi, voilà, j'aimerais pouvoir, j'irai jamais chez un caviste ou dans un restaurant acheter une de ces bouteilles, j'ai absolument pas les moyens, mais j'aimerais pouvoir acheter, une ou deux bouteilles, enfin, peu importe, quoi. Enfin, en tout cas, je leur ai transmis la passion et l'émotion que m'avait provoquer cette dégustation et le contact de ces vins d'exception. Et voilà. Et en général, s'ils ont affaire à des gens sincères et passionnés, donc c'est pas accessible à,
t'as pu acheter
à
des,
tout le monde.
Des bouteilles au domaine.
Il a reçu une caisse.
Non.
Ça, à 48 heures après.
Faut pas dire des bêtises pareilles. Mais en tout cas, toute personne passionnée de vin qui a la chance d'avoir un métier, un peu de revenu, on peut s'acheter pas forcément la Romanée Conti, mais ils ont toutes sortes d'autres vins. Hein, et je vous assure qu'au domaine, les prix sont relativement accessibles. Ça n'a rien à voir avec ce que vous direz dans la presse ou ailleurs.
Quand on voit l'argent que certains dépensent dans des voitures polluantes et bruyantes. Tout est relatif. Non, mais c'est vrai.
Petite touche personnelle.
Non, mais c'est vrai. On dit c'est cher.
Chacun ses priorités.
Cher. Exactement.
Excusez-le, il s'est bien tenu pendant une heure et là, il craque.
Prendre l'avion, partir à l'autre bout du monde, ça coûte cher aussi. Enfin, voilà, tout est toujours très relatif, même si, effectivement, ça fait aussi partie de cette mystique ou cette fascination des vins d'exception. C'est que, par définition, ils sont difficiles à... Difficile à atteindre, difficile à rencontrer.
Oui, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être
la... Il y en a une caisse à 60 centimètres.
Mais il y a une grille, comme tu l'as constaté.
Il y a une grille. C'est peut-être ce qu'on peut transmettre aussi à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas oublier que le vin, les domaines viticoles, quel que soit leur prestige, leur notoriété, leur prix, c'est quand même des gens qui travaillent, qui sont souvent dans ces lieux depuis plusieurs générations et qui ont une vraie passion pour ce qu'ils font. Moi, c'est pour ça que j'aime la Bourgogne, même si elle est un peu dans l'œil du cyclone en ce moment. Mais ça reste des... Il faut bien voir que...
Il n'y a pas de vin d'exception sans passion.
Aubert de Vilaine disait ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est fascinant. La première année où le domaine de la Romanée Conti a été rentable, c'est 72. Avant, ils perdaient de l'argent et c'était leur ferme dans l'Allier qui compensait les pertes du domaine. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens, c'est des gens de la terre. C'est des paysans, c'est pas les gens de la ville ont du mal à dire paysans, mais c'est des paysans, parfois des paysans de standing, mais ils ont une passion pour ce qu'ils font, ça les flatte, comme nous on est flatté de boire un grand vin ou de goûter un grand vin, ça les flatte de produire des vins qui sont convoités dans le monde entier, mais ils restent très, très attachants, très humains, et c'est toujours un grand plaisir quand on fait toute cette démarche, d'aller voir même votre vigneron du coin, près de chez vous, mais c'est toujours passionnant d'échanger, de comprendre ce qu'ils font. Enfin, voilà, il faut arrêter de lire les magazines de luxe et revenir à cette chose qui est belle, qui est de faire un produit agricole, consommable, gardable, parfois d'exception.
Bon, je pense qu'on...
Pardon.
On est de toute façon là sur, quand on parle des vins d'exception, sur une dimension culturelle du vin qui atteint son paroxysme, quoi. Enfin, l'histoire du livre, ce livre des vins d'exception, ça fait partie de... Voilà, on peut avoir envie d'avoir un livre sur les plus beaux châteaux de France. Bon, c'est pas parce qu'on va avoir accès à... On va aller posséder un château, ça fait partie du mythe, on l'a dit, de l'espèce du patrimoine culturel
On est dans les beaux-arts.
Qu'on a, et voilà, qu'on a. Et on n'est pas obligé de se projeter dans, ah tiens, je vais y goûter ou je ne vais pas pouvoir y goûter, donc je n'achète pas ce livre. Ou, enfin, le livre, justement, donne, nourrit ce fantasme, je trouve.
Mais tu me diras combien je te dois après. Mais oui, il y a une dimension de rêve. Et c'est pour ça que le livre, c'est un bel objet en soi. On n'est pas obligé après d'aller goûter les vins. Peut-être qu'on aura la chance de le faire. C'est un bel objet en soi. Il faut quand même que je fasse un petit jingle promotionnel. J'ai travaillé aussi avec des photographes. Donc moi, je suis l'auteur de tous les textes. Hein, mais j'ai travaillé avec des photographes. Donc Fabrice Le Seigneur, qui a réalisé spécialement un certain nombre de photos de bouteilles. Et alors, on se dit, la photo de bouteille, bon, c'est casse-pied. Et non, parce que voilà, quand on a affaire à un type qui est lui aussi passionné et qui est un excellent dégustateur, eh bien, il a fait des photos avec des reflets, avec enfin, il y a des très belles photos. Et puis Mathieu Garçon, un autre photographe, nous a fourni aussi quelques-uns qui fait plus spécifiquement des portraits, nous a fourni quelques-uns de ses portraits. Et puis on a chiné des photos. Enfin, moi, on voulait tous d'ailleurs, hein, et chez Grund et Holo, que ça soit un bel objet. Donc il y a eu vraiment un enthousiasme communicatif. Je pense que tout le monde est peut-être allé au-delà de ce qu'il était raisonnable de faire pour que ce livre soit bien. Et donc, il y a des très belles photos. Je vous avais juste apporté là, parce que celle-là, donc il y a Biondi Santi, qui est un grand domaine historique de Toscane. Et il y a cette très belle photo du patriarche, dont j'ai oublié le nom. Et je voulais, voilà, cette photo est magnifique. Je me suis battu.
On dirait le guépard.
Oui, mais exactement. Exactement. Et avec quelque chose de très italienne, de très...
On dirait Bart Lancaster.
Intemporel.
Âgé dans le guépard.
Et donc voilà, il y a des...
Hein, Visconti ?
Oui, mais c'est Bert Lancaster qui joue le rôle.
Il y a des très belles photos. Ouais, Visconti, ouais. Et puis les textes sont assez riches, hein, vous l'avez peut-être vu vous-même. Et ce que j'ai eu plaisir à faire aussi, c'est non pas à être exhaustif, mais moi j'étais scénariste, donc j'aime bien raconter des histoires. Donc j'essayais de raconter des histoires, les histoires historiques. J'ai pas mal fouiné, j'ai trouvé des choses... un peu original, un peu caché. Je vous les raconterai une autre fois, ou dès qu'on aura coupé ce micro, tu te tais maintenant.
En effet, il va falloir. Surtout que on pourrait continuer si on n'avait que cette émission, mais en fait, il y en a une autre qu'on va démarrer plus tard. Un livre d'exception, je pense qu'on peut le dire. Ça s'appelle « Vin d'exception, de toujours, d'aujourd'hui et de demain ». C'est signé Gilles Durand-Daguin, accompagné des photographes que tu viens de citer. Aux éditions Grunt, on est en fin d'année.
C'est le cadeau.
On peut dire son prix à 69 euros.
Oui, 69 euros, ce qui n'est pas cher. Non. Parce que parfois, les gens se disent, 69 euros pour un livre, c'est un peu cher. Bah,
par rapport à l'objet que c'est.
Voilà.
Pour faire écho, le domaine Trévalon fait un livre sur Trévalon qui vaut 80 euros, si ça peut... C'est plus cher.
Il n'y a qu'un domaine.
Il y en a 100.
Pour son argent.
C'est comme disent les Américains, value for money.
Voilà. Value for money. Merci infiniment, Gilles Durand-Daguin, d'avoir partagé ce moment avec nous. On a bu deux vins dans cette émission. Le premier, c'était un vin de Savoie, du vigneron. Je vais te laisser nous rappeler son nom.
Ludovic Archer.
La bouteille n'est plus sur la table, donc je ne l'ai pas noté. Summertime.
Chignon Bergeron 2020.
Ouais. Chignon Bergeron 2020, c'était magnifique. Le deuxième vin, c'était un vin rouge du domaine de Trévalon.
En 2011,
c'était dans un style complètement différent, aussi un vin assez exceptionnel. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus ce soir. On va enchaîner avec une histoire de sommellerie. Il paraît que la sommellerie, c'est aussi une compétition internationale et mondiale dans laquelle, paraît-il, pour une fois, les Français excellent. Merci.
Ben c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez tous passé
Valérie.
Un bon moment.
Au revoir Laurent.
Au revoir. Merci. À tous.
Au revoir Patrice. Au revoir. Et au revoir Gilles. À bientôt. I'm so in love, there's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Your hand, darling, it's grand. They just don't understand living for you.
menacé.